Jules Verne, César Cascabel, deuxième partie, chapitre 11. Les monts Oural. La chaîne de l'Oural mérite d'attirer la visite des touristes autant, à tout le moins, que les Pyrénées et les Alpes. En tartare, le mot Oural signifie ceinture, et c'est bien une ceinture qui se développe depuis la mer Caspienne jusqu'à la mer Arctique, sur 2 900 km de longueur, une ceinture ornée de pierres précieuses, enrichie de métaux fins, or, argent, platine, une ceinture qui serre le vieux continent à la taille entre les limites de l'Asie et de l'Europe. Vaste système orographique, il verse ses eaux à travers les lits de l'Oural, de la Kara, de la Petchora, de la Kama et nombre de tributaires, alimentés par la fusion des neiges. Superbe barrière de granit et de quartz, elle dresse ses aiguilles et ses pics à une altitude moyenne de 2 300 mètres au-dessus du niveau océanique. Voilà ce que l'on peut véritablement appeler des montagnes russes, dit assez plaisamment M. Cascabel. Seulement, ça ne dégringole pas tout seul, comme à la porte-maillot ou à la fête de Neuilly. En effet, cela ne devait pas dégringoler tout seul. Et en premier lieu, pendant la traversée de la chaîne, il serait difficile d'éviter ces bourgs, ces avodis, ces nombreux villages dont la population doit son origine aux anciens ouvriers qui étaient occupés à l'exploitation des mines. Toutefois, en franchissant ces défilés grandioses, la troupe de M. Cascabel n'avait point à redouter les postes militaires, puisque ses papiers étaient en règle. Et même si elle eût abordé les monts Oural dans leur partie médiane, elle n'aurait pas hésité à suivre la belle route d'Iekaterinbourg, l'une des plus fréquentées de la chaîne, afin de déboucher sur le gouvernement de ce nom. Mais, puisque l'itinéraire d'Ortic l'avait amenée plus au nord, mieux valait suivre la passe de la Petchora et redescendre ensuite jusqu'à Perm. C'est ce qui allait être fait dès le lendemain. Lorsque le jour fut venu, on put constater combien la masse des assaillants avait été considérable. S'ils étaient parvenus à forcer l'intérieur de la belle roulotte, pas un de ses hôtes n'eût survécu au carnage. Une cinquantaine de loups étaient étendus, sur le sol, de ces loups de grande taille si redoutables aux voyageurs engagés à travers la steppe. Les autres avaient pris la fuite, détalant comme s'ils avaient eu le diable au corps, métaphore absolument justifiée cette fois. Quant aux deux bêtes flambées, on les retrouva à quelques 100 pas de la clairière. Et maintenant, une question se posait. À l'entrée de ce défilé de la Petchora, la belle roulotte était fort éloignée de ces avodis, qui sont rares sur le versant oriental de l'Oural. « Comment ferons-nous ? » demanda Jean. « Notre attelage de renne est en fuite. »« S'il n'était qu'en fuite, » répondit M. Cascabel, il ne serait peut-être pas impossible de le retrouver, mais il est probable que nos rennes auront été dévorées. « Pauvres bêtes !» dit Napoléon. « Je les aimais comme j'aimais Vermouth et Gladiator. Qui aurait péri sous la dent des loups s'ils ne s'étaient noyés là-bas » ajouta Cendre. « Oui, c'est bien ce qui leur serait arrivé, » dit M. Cascabel en laissant échapper un gros soupir. « Mais comment remplacer notre attelage ?» Je vais me rendre au plus prochain village, où je me procurerai des chevaux, en les payant un bon prix, répondit M. Serge. Si Ortic peut me servir de guide... Nous partirons quand vous voudrez, M. Serge, répondit Ortic. Évidemment, ajouta M. Cascabel, il n'y a pas autre chose à faire. Et c'est ce qui eût été fait, dès le jour même, si, à l'étonnement général, on eût vu paraître deux rennes sur le bord de la clairière vers 8 heures du matin. Ce fut Cendre qui les signala. « Père ! Père ! » s'écria-t-il. « Les voilà ! Ils reviennent !»« Vivants ? En tout cas, ceux-là n'ont pas l'air d'avoir été trop dévorés, puisqu'ils marchent. »« À moins, » répliqua Clou, « qu'il ne leur soit resté des jambes. »« Ah, les bonnes bêtes !» s'écria Napoléon. « Il faut que je les embrasse !» Et, après avoir couru vers les deux rennes, elle leur passa les bras autour du cou et les embrassa de bon cœur. Mais deux rennes n'auraient pas été capables de traîner la belle roulotte. Par bonheur, plusieurs autres se montrèrent à la lisière du bois. Une heure plus tard, il y en avait 14 sur les 20 qui étaient venus de l'archipel d'Eliakov. « Vive les reines !» s'écria ce gamin de cendre, sans que ce cri n'eût rien de monarchique, bien entendu. Il ne manquait plus que 6 de ces animaux, c'étaient ceux que les loups avaient attaqués, avant qu'ils n'eussent pu rompre leurs entraves, et dont on retrouva les restes aux abords de la clairière. Les 14 autres avaient pris la fuite dès le début de l'attaque, et c'était l'instinct qui les avait ramenés au campement. Si ces excellentes bêtes furent bien reçues, on l'imaginera sans peine. Avec elles, le véhicule pourrait reprendre sa marche à travers le défilé de l'Oural. Tout le monde pousserait aux roues lorsque les pentes seraient trop raides, et M. Cascabel pourrait faire une entrée à grand effet sur la place de Perm. Ce qui l'attristait pourtant, c'est que la belle roulotte avait quelque peu perdu de sa splendeur d'autrefois, avec ses flancs labourés par la dent des loups, ses panneaux égratignés par les ongles de ses farouches carnassiers. Avant cette agression, déteinte par les rafales, dédorée par les intempéries, usée par les fatigues d'un pareil voyage, elle était déjà presque méconnaissable. L'écusson des cascabelles s'était à demi effacé sous le fouet des chasse-neige. Quel coup de brosse et de pinceau il faudrait pour lui rendre son premier lustre. En attendant, les plus vigoureux nettoyages de Cornelia et de Clou n'y pouvaient rien. À 10 heures, les rennes furent attelées et l'on se mit en marche. Comme la passe montait sensiblement, les hommes suivirent à pied. Le temps était beau et la chaleur assez supportable en cette partie élevée de la chaîne. Mais que de fois il fallut venir en aide à l'attelage, dégager les roues enlisées jusqu'au moyeu au fond des ornières. À chaque tournant trop brusque du col, il y avait nécessité de soutenir la belle roulotte qui menaçait de donner de l'avant-train ou de l'arrière-train contre l'angle des roches. Ces défilés de l'Oural ne sont point l'œuvre de l'homme. C'est la seule nature qui a frayé un passage aux eaux de la chaîne à travers ses sinueux écartements. Une petite rivière, affluent de la Sosva, descendait en coulant vers l'ouest. Parfois son lit s'élargissait au point de ne plus laisser qu'un étroit sentier en zigzag. Ici les talus s'élevaient presque à pic, découvrant la charpente rocheuse très visible sous le rideau des mousses et des plantes lapidaires. Là, les flancs, s'allongeant en pente douce, étaient hérissés d'arbres, pins et sapins, bouleaux et mélèzes, et autres essences des contrées septentrionales de l'Europe. Et au lointain, perdus dans les nuages, se profilaient les crêtes neigeuses qui alimentaient les torrents de ce système orographique. Pendant cette première journée, la petite troupe ne rencontra personne, tandis qu'elle suivait cette passe évidemment peu fréquentée. Ortik et Kirchef paraissaient assez bien la connaître. À 2 ou 3 reprises, cependant, ils semblèrent hésiter, là où plusieurs ramifications se ramifiaient à travers le massif. Ils s'arrêtaient alors, ils s'entretenaient à voix basse, ce qui ne pouvait paraître suspect, puisque personne n'avait le plus léger motif de suspecter leur bonne foi. Pourtant, Cayette ne cessait de les observer, sans qu'ils pussent s'en apercevoir. Ces conversations secrètes, certains coups d'œil qu'ils échangeaient, excitaient de plus en plus sa méfiance. Eux, d'ailleurs, étaient loin de se douter que la jeune indienne eût quelque motif de les tenir en suspicion. Le soir venu, M. Serge choisit un lieu de halte sur le bord de la petite rivière. Le repas achevé, M. Cascabel, Kirchef et Clou Girofle s'imposèrent la tâche de veiller à tour de rôle, par mesure de prudence. Ils eurent quelque mérite à ne point s'endormir à leur poste après les fatigues de cette journée et les insomnies de la nuit précédente. Le lendemain, reprise de la marche en remontant le défilé, qui s'élevait et se rétrécissait à la fois. Même difficulté que la veille, exigeant mêmes efforts. Résultat, de 2 à 3 lieues seulement pendant 24 heures. Mais cela était prévu pour le passage de l'Oural et compris dans les retards de l'itinéraire. Certes, M. Serge et son ami Jean eurent plus d'une fois la tentation de poursuivre quelques beaux gibiers à travers les gorges forestières qui s'ouvraient sur le col. Entre les fourrés, on voyait passer des élans, des daims, des lièvres par bandes. Cornelia n'aurait point fait fi de venaison fraîche. Mais si le gibier abondait, les munitions, on le sait, avaient été totalement épuisées pendant l'attaque des loups, et elles ne pourraient être renouvelées qu'à la prochaine bourgade. Aussi, les fusils étaient-ils forcés de se taire, et Wagram, regardant son jeune maître, avait positivement l'air de lui dire « Ah ça, on ne chasse donc plus ? Et cependant, une circonstance se présenta où l'intervention des armes à feu eût été pleinement justifiée. Il était 3 heures après-midi. La belle roulotte suivait une berge rocailleuse lorsqu'un ours apparut de l'autre côté du cours d'eau. C'était un animal de grande taille qui fut signalé par les aboiements très significatifs des deux chiens. Dressé sur son arrière-train, il balançait son énorme tête et secouait sa fourrure brune en regardant cheminer la petite caravane. Avait-il envie de l'attaquer, cet ours ? Était-ce un regard de curiosité ou un regard de convoitise qu'il jetait sur l'attelage et ses conducteurs ? Jean avait imposé silence à Wagram et à Marengo, jugeant inutile d'exciter cette redoutable bête, puisqu'on était désarmé. Pourquoi risquer de changer ses dispositions, pacifiques peut-être, en dispositions hostiles, alors qu'il lui eût été facile de passer d'une rive à l'autre de la rivière ? Il arriva donc que l'on se regarda tranquillement, comme des voyageurs qui se croisent sur une route, tandis que M. Cascabel se bornait à dire « Quel dommage de ne pouvoir s'emparer de ce superbe Martin de l'Oural ! Quelle figure il ferait dans notre personnel !» Mais il eût été difficile d'offrir à cet ours un engagement dans la troupe. D'ailleurs, préférant sans doute l'existence forestière à l'existence foraine, il se leva, remua une dernière fois sa grosse tête et disparut en trottinant. Toutefois, comme un salut en vaut un autre, Cendre le gratifia d'un coup de chapeau, auquel Jean eut volontiers substitué un coup de fusil. À 6 heures du soir, halte établie à peu près dans les mêmes conditions que la veille. Puis le lendemain, départ dès 5 heures et pénible journée de marche. Toujours beaucoup de fatigue, mais pas d'accident. Maintenant, le plus rude était fait, puisque la belle roulotte se trouvait au point culminant de la passe, au col même du défilé. Il ne restait plus qu'à descendre en suivant les pentes occidentales qui se dirigent vers l'Europe. Ce soir-là, 6 juillet, l'attelage, très surmené, s'arrêta près de l'entrée d'une gorge tortueuse qu'un bois épais flanquait sur la droite. La chaleur avait été étouffante pendant cette journée. Vers l'est, de gros nuages, nettement coupés d'une longue barre à leur partie inférieure, tranchaient avec les vapeurs livides de l'horizon. « Nous allons avoir l'orage, » dit Jean. « C'est fâcheux, » répondit Ortic, « car les orages sont quelquefois terribles dans l'Oural. »« Eh bien, nous nous mettrons à l'abri, » répondit M. Cascabel. « J'aime encore mieux l'orage que les loups. »« Cayette, » demanda Napoléon à la jeune indienne, « est-ce que tu as peur du tonnerre ?»« Non, ma chérie, » répondit Cayette. « Tu as raison, petite Cayette, » ajouta Jean. « Il ne faut point avoir peur. » « Tiens !» s'écria Napoléon en haussant les épaules. « Quand on ne peut pas s'en empêcher !»« Oh, la poltronne !» répliqua Cendre. « Mais Nigaud, le tonnerre, ce n'est qu'un gros jeu de boules !»« Oui, des boules de feu qui vous tombent sur la tête, des fois !» répliqua la fillette, en fermant les yeux devant un vif éclair. On se hâta d'organiser le campement afin que chacun pût se mettre à couvert avant l'orage. Puis, après le souper, il fut décidé que les hommes veilleraient tour à tour, comme les nuits précédentes. M. Serge allait se proposer, lorsqu'Ortic le prévint en disant « Voulez-vous que nous commencions la veillée, Kirchef et moi ?»« Comme vous voudrez, » répondit M. Serge. « À minuit, je viendrai avec Jean vous relever. »« C'est entendu, M. Serge, » répondit Ortic. Cette proposition, si naturelle pourtant, parut suspecte à Cayette. Et, sans trop s'en rendre compte, elle eut le pressentiment qu'elle cachait quelque machination. En ce moment, l'orage commençait à se déchaîner avec une extrême violence. Les éclairs jetaient de grandes lueurs rapides à travers le dôme des arbres, et le tonnerre roulait dans l'espace en se multipliant aux échos de la montagne. Napoléon, pour mieux fermer les yeux et les oreilles, s'était déjà blotti dans sa couchette. Chacun se hâta de regagner son lit, et, vers 9 heures, tout le monde était endormi à l'intérieur de la belle roulotte, en dépit des fracas de la foudre et du sifflement des rafales. Cayette seule ne dormait pas. Elle ne s'était point déshabillée, et, bien que très fatiguée, n'aurait pu trouver un instant de sommeil. Une profonde inquiétude l'envahissait lorsqu'elle songeait que la sécurité de ses compagnons était confiée à la garde des 2 matelots russes. Aussi, 1 heure après, Voulant se rendre compte de ce qu'il faisait, elle souleva le rideau de la petite fenêtre au-dessus de sa couchette et regarda la lueur des éclairs. Ortik et Kirchef, qui causaient, venaient d'interrompre leur conversation et se dirigeaient vers l'entrée de la gorge où un homme se montrait en ce moment. Aussitôt, Ortik fit signe à cet homme de ne pas s'avancer davantage par crainte des chiens. Si Wagram et Marengo n'avaient pas signalé son approche, c'est que, par cette étouffante température d'orage, ils avaient cherché un abri sous la belle roulotte. Après avoir rejoint cet homme, Ortik et Kirchef échangèrent quelques paroles avec lui, et dans l'illumination d'un éclair, Cayette vit qu'il le suivait sous les arbres. Quel était cet homme? Pourquoi les deux matelots s'étaient-ils mis en rapport avec lui? C'est ce qu'il fallait à tout prix savoir. Cayette se glissa hors de sa couchette et si doucement qu'elle n'éveilla personne. En passant près de Jean, elle l'entendit prononcer son nom. Jean l'avait-il vu? Non, Jean rêvait, et rêvait d'elle. Dès qu'elle eut atteint la porte, Cayette l'ouvrit avec précaution et la referma sans bruit. Dès qu'elle fut dehors, « Allons, » dit-elle. Elle n'eut pas une hésitation, elle n'éprouva pas une crainte. Et pourtant, c'était peut-être sa vie qu'elle risquait, si elle était découverte. Cayette s'engagea à travers le bois, dont les dessous s'illuminaient comme d'un reflet d'incendie, lorsqu'un large éclair déchirait les nuages. En rampant le long des fourrés, au milieu des hautes herbes, elle arriva derrière le tronc d'un énorme mélèze. Un chuchotement de voix qu'elle entendit à la distance d'une vingtaine de pas la fit s'arrêter. Sept hommes étaient là. Ortik et Kirchef venaient de les rejoindre, et ils étaient groupés sous les arbres. Et voici ce que Cayette surprit de la conversation de ces hommes suspects qui s'exprimaient en langue russe.
« Ma foi, dit Ortik, j'ai eu bien raison de prendre le défilé de la Petchora. On est toujours sûr d'y rencontrer d'anciens camarades. N'est-ce pas, Rostov ?»
Rostov était l'homme qu'Ortik et Kirchef avaient aperçu sur la lisière du bois.
« Voilà 2 jours, répondit Rostov, que nous suivons cette voiture en ayant soin de ne point nous laisser voir. Comme nous vous avions reconnus tous les deux, Kirchef et toi, nous pensions qu'il y aurait un bon coup à faire.
« 1 et peut-être 2, répondit Ortik.
« Mais d'où venez-vous ? Demanda Rostov.
« Du fond de l'Amérique, et nous étions enrôlés dans la bande de Karnov.
Et ces gens que vous accompagnez, qui sont-ils ?
Des saltimbanques français, une famille cascabelle qui revient en Europe. On vous contera plus tard nos aventures de voyage. Allons au plus pressé.
« Ortik, demanda un des compagnons de Rostov, y a-t-il de l'argent dans cette voiture ?
Encore 2 ou 3 000 roubles.
Et vous n'avez pas encore pris congé de ces braves gens ?
Fit observer ironiquement Rostov.
Non, car il s'agit d'une affaire bien autrement importante qu'un méchant petit vol, et pour laquelle j'avais besoin de quelques renforts.
Et cette affaire ?
Écoutez-moi, les amis, reprit Ortik. Si Kirchef et moi nous avons pu traverser la Sibérie sans courir de risques, et arriver sur la frontière russe, c'est grâce à cette famille cascabelle. Mais ce que nous avons fait dans ces conditions, un autre l'a fait aussi, espérant qu'on ne l'irait pas chercher au milieu d'une troupe de saltimbanques. C'est un Russe, qui n'a pas plus que nous le droit de rentrer en Russie, bien que ce soit pour d'autres motifs un condamné politique, de grande naissance et de grande fortune. Or, son secret, qui n'est connu que du sieur cascabelle et de sa femme, nous sommes parvenus à le découvrir.
Et comment ?
Un soir, à Mougy, une conversation que nous avons entendue entre le cascabelle et le Russe. Et il s'appelle ?
Monsieur Serge, pour tout le monde.
En réalité, c'est le comte Narkin, et il y va de sa vie s'il est reconnu sur le territoire moscovite.
Attendez donc, dit Rostov, ce comte Narkin n'est-il pas le fils du prince Narkin, qui a été déporté en Sibérie et dont l'évasion a fait tant de bruit il y a quelques années ?
Précisément, répondit Ortik. Eh bien, le comte Narkin a des millions, et je pense qu'il n'hésitera pas à nous en donner au moins un, sous la menace d'être dénoncé.
Bien imaginé, Ortik. Mais pourquoi as-tu besoin de nous pour exécuter ce plan ?
Demanda Rostov. Parce qu'il importe que Kirchev et moi n'ayons pas paru dans cette première affaire dans le cas où elle échouerait, afin de nous rattraper sur la seconde. Pour qu'elle réussisse, pour que nous puissions nous emparer de l'argent et de la voiture des Cascabelles, il faut que nous restions les deux naufragés russes qui leur doivent leur salut et leur rapatriement. Et alors, après nous être débarrassés de cette famille, nous pourrons courir les villes et les campagnes sans que la police s'avise de venir nous chercher sous l'habit de saltimbanque.
Ortik, veux-tu que nous attaquions cette nuit même? Que nous nous emparions du comte Narkin? Que nous lui fassions savoir à quelles conditions on ne dénoncera point son retour en Russie?
Patience, patience, répondit Ortik. Puisque le comte Narkin a l'intention de revenir à Perm, afin d'y revoir son père, mieux vaut le laisser arriver à Perm. Une fois là, il recevra un mot qui le priera, affaire très pressante, de se rendre à une entrevue, où vous aurez le plaisir de faire sa connaissance.
Ainsi, rien à tenter maintenant ?
Rien, dit Ortik, mais faites en sorte de nous précéder, sans vous laisser voir, et de manière à être un peu avant nous, au rendez-vous de Perm.
C'est convenu, répondit Rostov.
Et ces malfaiteurs se séparèrent, n'ayant aucun soupçon que leur conversation eût été surprise par Cayette. Ortik et Kirchev rentrèrent au campement quelques instants après elle, persuadés que personne ne s'était aperçu de leur absence. Maintenant, Cayette connaissait le plan de ces misérables. En même temps, elle venait d'apprendre que M. Serge était le comte Narkin, dont la vie était menacée, comme celle de ses compagnons. L'incognito qui le couvrait allait être dévoilé s'il ne consentait à livrer une partie de sa fortune. Cayette, terrifiée de ce qu'elle venait d'entendre, fut quelques instants à se remettre. Résolue à déjouer les manœuvres d'Ortik, elle chercha comment elle pourrait y parvenir. Quelle nuit elle passa, en proie aux plus vives inquiétudes, se demandant si ce n'était point un mauvais rêve qu'elle avait fait. Non, c'était bien une réalité. Et elle n'en put douter quand, le lendemain matin, Ortik dit à M. Cascabel « Vous savez que Kirchev et moi, nous avions l'intention de vous quitter de l'autre côté de l'Oural, afin de nous rendre à Riga. Mais nous avons réfléchi que mieux valait vous suivre jusqu'à Perm, où nous prierons le gouverneur de prendre des mesures pour notre rapatriement. Voulez-vous nous permettre de continuer le voyage avec vous ?»«
Avec plaisir, mes amis, » répondit M. Cascabel.
« Lorsqu'on vient ensemble de si loin, il faut ne se séparer que le plus tard possible. Et encore, est-ce toujours trop tôt ?»